Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala ila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi shahli sadri wa yassir li amri, wa ahlun aqdata min lisani yafqahu qawli. Hier, il y a eu un petit souci au niveau du dictaphone, donc la fin de l'intervention n'a pas été enregistrée. Et je vais juste reprendre les derniers textes, les derniers hadiths qui étaient prévus pour conclure la thématique de salamatul lisan, le fait de préserver sa langue, de faire en sorte de ne pas dire de paroles déplaisantes qui peuvent aller vers le riba, la bohtane et ainsi de suite, et qui ont comme conséquence le fait de porter atteinte aux récompenses de notre saum, de notre jeûne. On avait le dernier hadith qu'on avait cité avant que l'audio ne s'arrête, c'est la promesse du prophète alayhi salat wa salam, celui qui garantit de pouvoir se protéger contre l'adultère et contrôler sa langue, le prophète alayhi salat wa salam lui donne la garantie d'accéder au Jannah. Et on avait dit que voilà, un péché aussi grave que l'adultère, les péchés en rapport avec les paroles ont été mis dans un même texte pour qu'on comprenne que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Le prophète alayhi salat wa salam, lors du voyage nocturne al-Isra wal Mi'raj, Allah Rabbul Izzah lui a permis de voir le paradis et de voir l'enfer, et parmi les choses que le prophète a vues et qu'il a rapporté aux sahaba, ce sont des scènes qui devaient se produire à la fin du jugement dernier lorsque les gens seront en enfer. Et parmi les choses que le prophète alayhi salat wa salam a pu rapporter aux sahaba, c'est le châtiment qui est prévu pour une catégorie de personnes. Le prophète avait donc expliqué aux sahaba que j'ai vu en enfer des personnes qui se tailladaient les joues, qui se mutilaient, on va dire, le visage. Et j'ai demandé à l'ange qui m'accompagnait qui sont ces personnes. Et on m'a répondu que ce sont les gens, je retrouve le hadith, manha ou la. Donc ils se mutilaient le visage, mais également soudourhum, ils se mutilaient également le torse, donc au niveau du cœur. Man ha'oula, qal ha'oula illadhina ya'kuluna luhum an-nasi wa yaq'una fi a'radihim. Ça m'a eu la réponse de l'ange Jibril alayhi salam, que ce sont les gens qui dans ce monde avaient pour habitude de faire la médisance et de parler des choses privées concernant les gens, donc de se mêler de ce qui ne l'est regardez pas, et de parler des personnes, de leurs frères et sœurs. Donc là, nous voyons à travers ce hadith la gravité de la médisance et les conséquences. Directement, une scène que le prophète alayhi salat wa salam nous a rapporté du jahannam, qu'Allah nous protège, sallallahu alayhi wa sallam. Et de façon plus générale, plus globale, avant même d'aller vers des péchés, de lister des péchés comme la médisance, la calomnie, le fait de rapporter, de colporter des nouvelles et ainsi de suite, nous devons garder comme mode de fonctionnement de base en tant que croyant, c'est quelque chose qui doit faire partie de l'éthique du musulman, min khasa et c'est le muslim, ce qui nous distingue c'est ce que le prophète a dit, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakun khayran aw liyasmut, celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. Le prophète commence plusieurs hadiths avec ces termes pour montrer que ça, c'est des spécificités, des qualités de celui qui a vraiment la foi, dont la foi est vraiment entrée dans le cœur. Et donc, parmi les signes de ces croyants, c'est celui qui, lorsqu'il parle, c'est uniquement pour dire quelque chose de bien, quelque chose de positif, quelque chose de profitable. Ça peut être une parole bénéfique, un conseil pour un frère musulman, ou des paroles même qui ne sont pas forcément religieuses, mais qui sont bénéfiques. Ou alors, s'il n'a pas de parole bénéfique, que la personne ne dise rien. Donc, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va parler à tort et à travers et à parler sur les gens, chercher des nouvelles et ainsi de suite. Malheureusement, c'est très souvent notre mode de fonctionnement quand on se retrouve entre amis, quand la conversation commence par les termes, si l'on sait ce qu'il raconte, ou alors quelle nouvelle, ben voilà, on donne d'abord ces nouvelles, ça va tranquille, il avance, pas de problème et tout, mais ensuite ça va. Très souvent, je ne généralise pas, mais très souvent, quand on n'a plus rien à dire à soi-même, donc on n'a plus rien de constructif et d'important à dire, ben on va parler des dernières nouvelles, et ça, il faut absolument éviter. Il faut complètement éradiquer cette habitude de nos relations, de notre mode de fonctionnement dans les relations sociales. Un deuxième hadith général concernant ce noble comportement du croyant, quand le prophète dit que min husn islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Parmi les qualités du croyant, c'est de délaisser ce qui ne le concerne pas. Quand il s'agit de quelque chose qui ne te concerne pas et pour laquelle tu ne peux rien faire ou apporter, donc il n'y a pas nécessité d'aborder le sujet. Donc voilà, ça rejoint le même sens, c'est de limiter ses paroles à des propos profitables nous concernant ou concernant notre prochain à partir du moment où c'est profitable et non pas juste faire de la conversation. Ça, j'ai franchement horreur des personnes qui t'abordent comme ça et qui, de un, prend ton temps, te prend de tâche aussi, hein, pour discuter, parler, et très souvent, voilà, c'est pour des paroles qui n'ont pas grand intérêt. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la conversation, on ne va pas parler avec personne. Si on parle, c'est uniquement pour des propos religieux. Non, mais on a bien compris, faisons attention à ce que nous disons. Faisons extrêmement attention à nos paroles. Et le hadith du voyage nocturne, ça doit être vraiment un rappel puissant pour nous, et ça doit être, je veux dire, une alarme, on va dire, d'une certaine façon, chaque fois qu'on est dans une assemblée, soit un mariage, un repas en famille ou un cercle d'amis, et comme on l'avait dit également sur les réseaux sociaux, et qu'on sent que c'est en train de glisser vers la médisance ou la calomnie, où on parle des gens, il faut tout de suite qu'il y ait un warning, stop, on quitte la conversation, on ne participe pas, mais la bonne façon du croyant quand il est face à quelque chose de répréhensible, c'est d'essayer d'arrêter le mal par ses paroles, de dire que non, là on est en train de faire riba, on risque de faire la médisance, donc il est mieux de s'arrêter à là. Et si on voit que c'est pas possible, c'est des gens qui sont lancés, ben sortir de cette assemblée, en tout cas ne pas rester dans une assemblée où il y a riba, même si on ne participe pas, parce que si on est présent, c'est qu'on cautionne et on est porteur d'une part de responsabilité des propos de cette assemblée. Donc c'est très délicat les relations sociales. Il faut que nous puissions apporter un peu de spiritualité dans nos échanges. Et le hadith de conclusion qui souligne une qualité essentielle du croyant et qui nous permet de faire le lien avec le thème de ce vendredi, c'est le hadith de Abu Moussa, hein, Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, un hadith rapporté par Bukhari Muslim, de lequel le prophète alayhi salat wa salam a été questionné: quel est le meilleur comportement du musulman, qu'est-ce qui distingue l'islam, le comportement islamique d'un croyant? Qala alayhi salat wa salam: man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le sens de cette parole prophétique, c'est le croyant qui ne fait du tort à personne. C'est-à-dire que ce genre de personne, tu sais qu'avec lui, il n'y a aucun risque. Qu'il parle, comme on dit, sur ton dos, qu'il ait des propos à ton encontre, ou aucun risque non plus qu'il te fasse du mal. Il y a des personnes comme ça qui, mashallah, on sait que même si ce sont pas des leaders, hein, c'est pas des gens qui vont faire avancer beaucoup de projets ou qui vont prendre beaucoup d'initiatives ou des décisions, ce sont pas des gens qui parlent beaucoup, et c'est pas un défaut mais plutôt une qualité, mais vous êtes sûr que c'est quelqu'un qui ne te causera jamais du tort. Ça, c'est une qualité exceptionnelle d'un croyant, c'est ce croyant qui est discret. Ce croyant qui est tranquille, cette personne qui ne se montre pas, ne s'expose pas, qui ne cherche pas à être le centre d'intérêt, qui ne cherche pas à s'illustrer par des propos, par des paroles, par des anecdotes, et ainsi de suite. C'est la personne discrète qui parle très peu et surtout qui ne cause du tort à personne. Je répète, quitte un petit peu à répéter un peu les mêmes termes, mais pour qu'on comprenne bien, ne jamais parler sur notre prochain et ne pas souhaiter du mal ou ne pas ressentir la moindre animosité, jalousie ou avoir envie de causer du tort à son prochain. Ça, c'est min husni islamil mar'i. Ça fait partie des grandes qualités qu'un croyant peut vivre à travers sa pratique de la religion et c'est une preuve que la foi est réellement ancrée dans son cœur, qu'Allah Rabbul Izzah. Non, c'était pas min husni islam il mar'i, ça c'est l'autre hadith, c'est Ayyul Islami Afdal. C'était donc la réponse à cette question. Qu'Allah nous accorde cette qualité qu'on puisse fréquenter les gens. Attention, je ne veux pas dire qu'il faut pas fréquenter personne, il faut rester silencieux. Non, non, non. On voit bien que les Sahaba, mashallah, c'était extrêmement actif. Et le prophète alayhi salat wa sallam les mettait à contribution, le prophète les sollicitait, leur posait des questions, les faisait participer à différents projets. Les sahaba étaient, mashallah, étaient des personnes qui étaient présentes dans toute action sociale, mais le prophète les sollicitait également d'aller mâchoire, d'aller les assembler. Quand il y avait un avis à demander sur quelque chose, à faire un projet, le prophète demandait aux sahaba leur avis. Le prophète c'était vraiment un modèle en termes de ce qu'on appelle en anglais de leadership, alayhi salat wa salam. Il savait comment motiver ses compagnons, comment donner de l'importance, comment mettre en avant les qualités de chaque sahaba qui était autour de lui, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et apporter les qualités qu'Allah leur a accordées au profit de la umma. Donc, je le répète, on ne reste pas dans notre coin silencieux pour éviter les péchés. Non, on est présent, on essaie d'être présent pour aider la jama'at, faire avancer la communauté, mais on fait attention à nos paroles, et on fait en sorte que notre cœur ne soit jamais entaché par des mauvaises pensées. C'est justement le point qu'on doit avoir aujourd'hui en quelques minutes. Salamatul quloubi, salamatul quloub. L'autre partie on a déjà fait, c'était la langue, mais j'ai préféré commencer par la langue, par les paroles, et donc conclure parce que l'auteur a ensuite cité comme conseil pour protéger et parfaire le jeûne. Et là on est vraiment dans la thématique de ce qu'on avait dit, tahsin as-sawm. On avait expliqué le terme tahsin, c'est la perfection du jeûne, faire en sorte que ton sawm, ta journée de jeûne, en plus du qiyamul layl du matin, mashallah, du tahajjud, je veux dire, en plus de du suhoor que tu prends, de la salat de fajr, de la lecture du Coran, du shuruq, ou qu'on appelle ishraq également, que tu fais, des salats du quotidien, des dhikrullah, des tilawat du Coran, c'est-à-dire en plus de toutes ces actions, qu'est-ce que tu peux rajouter comme qualité à ta journée de jeûne pour que vraiment tu deviennes un croyant brillant et que tu profites pleinement de la lumière du jeûne, et que ce saum, c'est une action qui est avant tout une tazkiya, une purification intérieure, pour que ton cœur profite de cette purification et que ton cœur soit réellement purifié par le jeûne. Car le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans le hadith, je retrouve le hadith de Yazid ibn Abdullah ibn Shakhir an al-A'rab, un bidouin. Le hadith est long, je vais juste citer le shahid, le point qui nous intéresse. Un bédouin avait posé une question au prophète alayhi salat wa salam, et le prophète sallam avait donné une réponse que sawm shahr as-sabri وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. Le Prophète informe que le jeûne du mois de la patience, c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan, qui était qualifié comme étant le mois de sobre, de patience, et jeûner trois jours de chaque mois, ثلاثة أيام من كل شهر, et les trois jours sunnah jeûner, c'est le 13, le 14 et le 15, bien sûr, des mois islamiques, du calendrier islamique. Donc, jeûner le mois de Ramadan et trois jours de chaque mois, ça enlève toute impureté au niveau de Assad, la poitrine, mais on comprend que c'est du cœur. C'est-à-dire que la personne qui est assidue, bien sûr, comme nous, alhamdoulilah, au mois de Ramadan, mais également au fait de jeûner régulièrement tous les mois pendant trois jours, c'est une thèse qu'il y a. C'est une action qui va le purifier intérieurement. Vous savez, je ne veux pas sortir du sujet parce que ce sont d'autres thèmes qu'on va aborder par la suite. Quand on parle de la zakat, le pilier de l'islam, l'aumône obligatoire que souvent on donne durant le mois de Ramadan, c'est une excellente chose de donner son aumône durant le mois de Ramadan. On a un verset du Coran qui nous rappelle خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم وتزكيهم بها, le sens du verset, ou alors le tafsir, on va aller directement via le tafsir. Le verset stipule que l'aumône purifie quoi? Purifie le cœur et purifie les biens. L'aumône fait partie des actions, l'aumône purifie les biens. Le mone fait partie des actions qui purifient les biens. Ça veut dire quoi, purifier les biens? Ça enlève les choses qui peuvent être mauvaises et ça t'apporte bénédiction dans ce qu'Allah t'a accordé. Ainsi donc, quand tu donnes la zakat, ne ressens pas comme une certaine frustration, hein. Je cherchais le terme frustration parce que on est en période de crise, c'est difficile, qu'on donne là, on a déjà beaucoup de charges à payer, les impôts, beaucoup de sollicitations, les factures, l'augmentation d'électricité à partir du mois de février, et ainsi de suite. Wallahu musta'an, qu'Allah nous accorde la baraka. Surtout quand il s'agit de commerçants, la zakat sur la marchandise, ça peut représenter une certaine somme. Mais il ne faut pas avoir une quelconque tristesse ou une quelconque frustration au fait de donner, être convaincu, on est un peu sorti du sujet, mais être convaincu que l'aumône purifie tes biens. Bilax, en donnant de cette aumône, Allah t'accordera bénédiction dans l'argent que tu as dans ton compte en banque, mais également dans ton stock de marchandises. Ça c'est, et puis par analogie, celui qui a un troupeau de moutons, de chameaux, de cabris ou autre chose, le fait de donner, de nos jours, il y a de moins en moins, mais le masla à la base c'était ça aussi, quand tu donnes une partie de ton troupeau, il y a un pourcentage bien sûr, en aumône, ça t'apportera protection et baraka. Être convaincu que le prophète nous a dit qu'il a juré 3 fois que l'aumône ne diminue en rien les biens. L'aumône ne diminue en rien les biens. Donc, là, l'aumône, la zakat, purifie les biens. C'est une des grandes fonctions de l'aumône, mais c'est également, enfin, on ne va pas développer cette thématique, mais l'aumône te permet également de recadrer et de fixer ta confiance en Allah. C'est une thèse qui est intérieure également pour te permettre de te débarrasser, de délester, on va dire, les pensées, le système de pensée, la logique du dunya, une pensée purement mathématique, où si tu as 3000 euros, tu enlèves, je dis un chiffre, tu enlèves 300, il reste 2700. Enlever du cœur cette approche purement mathématique et intégrer la notion de baraka, de bénédiction qui vient d'Allah. Donc voilà concernant l'aumône, qui est une thèse qu'il y a pour nous. Le saum, c'était dans les 5 piliers, mes chers frères et sœurs, il y a une thèse qui est exceptionnelle, c'est vraiment des thématiques à développer, l'apport de chaque pilier en islam, si vous devez parler du hajj et tout en termes de thèse qui a, de simplicité, d'égalité entre les gens et ainsi de suite. Subhanallah, notre religion elle est magnifique, elle est belle, et il suffit normalement que quelqu'un soit accroché à ces 5 piliers, comme une fois un bédouin était venu voir le prophète sallam pour lui poser des questions sur l'islam. C'était une des qualités, hein, des bédouins, c'est qu'ils posaient des questions, parfois des questions, cherche le terme, un peu limite, d'accord, j'ai utilisé un terme en anglais, mais voilà, on va dire des questions un peu limites, un peu dérangeantes, mais le prophète répondait, et le prophète avait cette qualité, Allahu Akbar, la pédagogie, la patience, le prophète sallam, jamais il ne repoussait une personne, jamais il ne considérait que telle personne. Parfois, peut-être, nous, on a cette approche que ça, c'est quelqu'un qui, voilà, qui va rien nous apporter. On n'a pas besoin de lui consacrer du temps. C'est pas quelqu'un, na'oud billah, c'est pas quelqu'un d'important. C'est pas quelqu'un qui va m'aider, même sur le plan religieux, dans un projet, et ainsi de suite. Donc, voilà, il n'y a pas nécessité de m'asseoir avec lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète, alayhi salatu wa salam, donnait du temps à chaque personne qui venait le voir, qui le sollicitait. Une fois, une personne, j'avais 2 anecdotes, une personne avait arrêté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la rue pour lui parler, pour lui poser une question, si je ne me trompe pas, c'était une dame âgée. Et les sahaba décrivent la scène que le prophète est resté debout avec cette dame âgée à l'écouter et à répondre à chacune de ses questions sans jamais l'arrêter ou lui dire que, na'oudou billah, que ça fait longtemps, que je suis pressé, que maintenant, qu'Allah nous pardonne. Parfois, nous, on n'a pas cette patience, et le prophète nous a montré quelle était sa patience et la grandeur de son âme, sa générosité quand il s'agissait de n'importe quel mu'min ou mu'mina qu'il abordait. Également, il y a le récit, c'était la 2e anecdote, puis je reviens vers notre thématique. Une de ses épouses, le hadith n'est pas sous mes yeux, je n'avais pas prévu de parler de ça, donc je n'ai pas le nom de cette épouse, qui avait engagé une longue conversation avec le prophète sallam, ce qu'on appelle aujourd'hui un débriefing. Et Allah seul sait comment les débriefings sont parfois complexes dans ce domaine. Et le prophète Sam a été patient avec son épouse, il l'a écouté du début jusqu'à la fin, et il est stipulé dans les hadiths le nombre de questions, enfin l'étendue de la conversation. Le prophète Sam était patient, ce sont là des enseignements pour nous. Ainsi donc, ce qu'on disait, je suis sorti du sujet, j'essaie de me raccrocher à ce qu'on avait dit juste avant, que le jeûne, peu importe, on reprend le hadith, on reprend le fil, que le jeûne, oui, on disait que chaque action, chaque pilier de l'islam est une purification pour notre cœur aussi. Que la personne avait demandé au prophète d'Allah, je ne fais que ces cinq piliers, je ne fais rien d'autre. Et le prophète, quelles sont les actions pour entrer au paradis? On a retrouvé le hadith, le prophète dit que tu fais telle chose en citant les cinq piliers. Cette personne dit au prophète d'Allah, je te promets que je fais ces cinq là, mais on comprend à fond et rien d'autre. Et le prophète a dit, et puis il est parti. Le prophète a dit au sahaba, si vous voulez voir quelqu'un du Jannah, quelqu'un qui entrera au paradis un jour, c'est bien cette personne. Et en commentaire, les savants disent que, c'est les piliers qu'on accomplit, mais vraiment avec présence de cœur. C'est pas juste un gestuel, un rituel. Même notre zakat, quand on donne, ça doit pas être juste de l'argent, un virement que tu fais sur un compte et tu n'en parles pas. C'est pas comme quand tu payes un PV, ou une amende, ou tu payes ta taxe d'habitation ou autre chose. Non. Ça doit être vraiment quelque chose qu'on fait avec cœur, avec esprit de sacrifice, qu'on le fait pour Allah à la recherche de l'agrément divin. Donc, je conclue, quand on accomplit nos piliers avec connaissance, comme on avait dit avant-hier, al-ilm qabla al-amal, la connaissance avant l'action, ce qui va enrichir ton approche de l'action et lui donner une ampleur magnifique et te faire profiter des thamarat, des fruits et de la lumière qui découle de cette action. Si notre Seigneur Blaïza nous a prescrit ces piliers, c'est que ces actions-là sont primordiales et nous apportent énormément. Donc, le jeûne est une purification pour le cœur, pour l'âme, et purification contre quoi? Yudhibna wa haras sadri. En commentaire, le hadith, on avait dit qu'il est rapporté par Imam Ahmad, on n'avait pas dit, rapporté par Imam Ahmad et authentifié par Albani, rahimahullah. Waharas sadri, c'est toutes les impuretés qui peuvent se trouver au sein de la poitrine de quelqu'un. Al-ghadab, la colère. Al-hiqd, al-adawa, al-wasawis, les insufflations de shaitan, les mauvaises pensées, la jalousie, la haine et ainsi de suite, tout ce qui est mauvais pour le cœur et qui d'une certaine façon finit par nous atteindre sur notre équilibre psychologique, parce que tout ça c'est lié, subhanallah. Je résume, le jeûne purifie le cœur à condition que la personne soit assidue au jeûne toute l'année. Qu'Allah nous donne tawfiq d'être assidu, bien sûr, à ce mois de Ramadan. Et je le rappelle, c'est un rappel, on aborde rarement les points de jurisprudence parce qu'il y a, mashallah, suffisamment de muftis, de collègues qui le font. Mais le message un peu, et surtout pour les dames, mais également pour les messieurs, si quelqu'un était malade pendant le mois de Ramadan, et bien sûr, je parle d'une maladie, pas une maladie incurable, hein. On ne parle pas de quelqu'un qui a un problème, d'insuline, nécessité de faire de l'insuline ou de dialyse, pas de maladie grave, on ne peut plus jamais jeûner, mais voilà, quelqu'un a une infection, ou une bronchite, ou autre chose, et que la personne ne peut pas jeûner, n'oubliez pas de rattraper le jeûne le plus rapidement possible. Et le rattrapage des jeûnes est prioritaire après le mois de Ramadan, avant même de jeûner les 6 Shawwal. Alors là, justement, j'ai dit que je n'aborde pas les questions de jurisprudence, mais je l'ai fait, j'ai un peu égratigné la question, je dois aller jusqu'au bout. Certains savants sont d'avis qu'on ne combine pas, il est un peu tôt pour en parler, hein, mais pendant qu'on y est, qu'on ne doit pas combiner les 6 Shawwal, le niyat des 6 Shawwal avec les kazas. Ça doit être des choses complètement distinctes. C'est un avis, et je suis de cet avis que le qadha, en tout cas, on doit le faire en priorité. D'accord? Et également pour les dames qui ne jeûnent pas pendant les périodes d'impureté, et ne pas oublier de rattraper les jeûnes, et surtout ne pas attendre, parce que Shaitan, il est là pour dérégler complètement notre notion de temps. C'est ce qu'on appelle le at-taswif, te dire saoufa, saoufa. Plus tard tu feras, plus tard tu feras. Et beaucoup de ceux se rendent compte que Ramadan 2024 est arrivé et il leur restait malheureusement des kazas, des qada, à remplacer du Ramadan de l'année dernière. Donc ça c'est un point important. Donc, qu'Allah nous permet d'être assidus à nos jeûnes du Ramadan et de jeûner 3 jours de chaque mois, c'est quelque chose qui nous sera profitable au niveau du cœur. Mais là aussi, à condition de faire les efforts. Et les efforts, c'est justement ce que le prophète a dit dans le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu. Là, on est un petit peu dans les hadiths de mise en garde. On avait commencé les 3 ou 4 premiers jours avec beaucoup de targhib, beaucoup d'annonces de bonnes nouvelles concernant le jeûne. On doit quand même parler des mises en garde contre un jeûne qui est mal fait, mal négocié, mal accompli. Le prophète a dit dans le hadith que les sassiyam, min al-akli wa shurbi, le hadith est long, on va dire en français pour rester dans notre timing, que jeûner, ce n'est pas uniquement s'abstenir de manger et de boire. Innama siyamu min al-laghwi wa rafath. Jeûner, c'est aussi et surtout s'éloigner de, alors comment c'était traduit, de tout ce qui est futile et de s'éloigner des obscénités. Donc après, il y a plus de traduction, mais ce sont les deux mots que j'ai. Et le prophète donne un exemple parmi tant d'autres. Fa'in sabbaka ahadun. Je pense que ce hadith est connu, que si cette partie du hadith en tout cas est connue, que si une personne t'insulte, ou alors quelqu'un dit des choses déplaisantes à ton propos, faqul inni sa'im, dire que je suis en état de jeûne, comprenez, ne pas rentrer dans le jeu de cette personne, ne pas répondre à ses insultes, ne pas aller dans l'escalade de la violence verbale, bil'aks, se contrer. Donc, c'est une thèse qui ne s'installe pas tout de suite naturellement, c'est quelque chose qui vient avec l'effort. Donc, quand une personne t'insulte ou il y a des propos qui sont déplaisants, tu dois te contrôler. Dans des situations où tu es exposé à de la colère ou de la frustration ou une situation d'injustice, ça peut être également, je vous le dis parce que au moment où je parle, il y a quelqu'un qui se garde devant le parking. Et je sais que j'aurai du mal à sortir dans un instant, mais voilà, c'est, machallah, la personne s'en va. Donc, la personne s'installerait, inchallah. Même de ce genre de situation, il ne faut surtout pas s'énerver ou se mettre en colère. Extrêmement important de se contrôler. Même une personne, je sais pas, je donne d'autres exemples. Quelqu'un vous brûle la priorité, refus de priorité quand vous êtes en train de conduire, ainsi de suite. Il faut surtout pas s'énerver. C'est pas le moment de faire na'oudou billah. Et ça doit être comme ça toute l'année. Hein. Pas de gestes. Je parlais même pas de gestes obscènes, hein, j'y pensais même pas, de gestes d'énervement, d'agacement ou dire des paroles déplacées. Vraiment, essayer de se contrôler et de faire en sorte que on ne s'emporte pas. Si tu fais cet effort, si ta journée de jeûne, elle est meublée de tout ça, je récapitule et je conclue, de bonnes actions, d'éloignement des péchés, de contrôle de la parole et ainsi de suite, mais également de contrôle sur ton cœur. C'est ce qu'on appelle salamatul qulub, de contrôle sur ton cœur, qu'il n'y ait rien de négatif qui entache ton cœur, aucune expression de haine, d'animosité, de jalousie, de malveillance et ainsi de suite. C'est là que ce jeûne va t'apporter yudhibna wa haras sadri, ça va purifier ton cœur de tout ce qu'il peut y avoir de sale, toute souillure, parce que notre cœur, naturellement, s'imbibe de notre mauvais comportement, mais également de nos mauvaises pensées. Ça, c'est beaucoup plus complexe. Parce que là, il ne suffit pas de prendre un karcher. S'il faut vraiment un karcher spirituel pour décaper, j'utilise ce terme, pour décaper tout ça. Autant pour les paroles, on comprend, on s'arrête, mais parfois, il y a des choses, des saletés qui s'incrustent de notre cœur par rapport à la jalousie et les mauvaises pensées. Ça, c'est beaucoup plus complexe. Mais voilà, chaque fois qu'on est exposé à une situation où on peut être amené à dire des paroles déplacées ou à s'énerver, on se contrôle et ce jeûne qui sera associé à ce contrôle de soi, de ses paroles, ça va nettoyer notre cœur. Non. On va s'arrêter à l'inchallah. Rester, avoir des qualités qui ont été énoncées dans le Coran concernant vraiment les mauvaises pensées. Là, on a plus parlé du mauvais comportement qu'on doit essayer donc de s'en prémunir pour avoir l'effet souhaité du jeûne sur notre cœur. Mais on verra demain, samedi, Inch'Allah, salamatu sadri, comment faire en sorte de n'éprouver aucune haine, animosité, jalousie, méchanceté et n'avoir aucune mauvaise pensée de notre cœur à l'encontre de notre prochain. On va voir les doigts que le prophète nous a enseigné à ce propos et le comportement des sahaba et les comportements des pieux prédécesseurs qui donnent une importance capitale au fait d'avoir un cœur pur. Qu'Allah Rabbul Izzah nous permet d'avoir cette tazkiyah de notre cœur par le biais du Ramadan, et c'est le premier Jum'a de ce mois béni. Le temps que le programme soit en ligne, ce sera après la salle de Jum'a, mais on essaie d'aller très tôt pour les messieurs à la masjid. Beaucoup de vertus à être présent tôt à la masjid pour la salle de Jum'a. Et bien sûr, qui dit Jum'a dit Surat al-Kahf, on lit la Surat al-Kahf, bien sûr. Également le maximum de salat ala nabi, ce qu'on appelle le durud sharif, les salutations chez le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.